Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, nous sommes à nouveau à l'antenne de Canal B pour parler de livres. Franchement, c'est le kiff de cette émission. Et pour parler de livres et de littérature jeunesse, qui plus est, parce que ça va être une émission dédiée à certains titres qui sont en ce moment en vente, ou bien peut-être certains aussi en bibliothèque, je ne sais pas encore. C'est Pauline de la librairie Le Fire qui va nous raconter tout ça. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Très contente de te recevoir. C'est ta première sur Canal B.
Tout à fait.
Et la littérature jeunesse, alors ce n'est peut-être pas une nouveauté pour toi, mais jusqu'alors, tu étais en littérature générale.
Oui, ça fait juste un mois que je suis passée en littérature jeunesse, donc je redécouvre beaucoup de très très belles choses et je découvre toutes les nouveautés qui sont tout aussi chouettes.
Quelle est la grande différence du travail, de l'approche avec notamment, par exemple, les gens qui viennent chercher les livres à la librairie quand on est en littérature jeunesse et quand on est en littérature générale, comme c'était ton cas?
Alors, ce sont deux rayons qui ont la particularité d'avoir beaucoup de conseils. Mais c'est vrai qu'en littérature jeunesse, c'est encore davantage. On a vraiment des parents, grands-parents, amis qui viennent et qui ne savent pas du tout vers quoi se tourner ou qui ont besoin de choses pour différentes problématiques qu'ont leurs enfants. Et donc, on a vraiment des conseils tout le temps très constants. Et puis aussi une clientèle parfois très experte qui est celle des enfants, qui, eux, lisent énormément. En tout cas, on a vraiment beaucoup de gros lecteurs qui parfois lisent plus que nous et qui sont surtout très, très calés dans ce qu'ils aiment.
Ah, ça, c'est très heureux à entendre. Et il y a tous les âges. Est-ce que dans le rayon, il y a des livres pour les vraiment tout petits?
Oui, c'est un rayon qui va de 0 à, on va dire, officiellement 18 ans. Après, on a beaucoup d'adultes aussi qui restent, parce qu'on a une excellente littérature jeune adulte. Mais ça va vraiment de 0. On a des livres pour en tissu, on a des livres pour le bain, on a des livres en carton, plein de choses pour les tout-petits.
Nous disons littérature jeunesse, mais celle-là n'exclut absolument pas les adultes. Bien au contraire, j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps, j'ai animé 5 rencontres littéraires dans le cadre de la littérature jeunesse. Je peux vraiment te dire avec beaucoup de sincérité, j'ai adoré tous les livres que j'ai lus. C'est un univers à part, en fait.
Ah oui, complètement. Et puis, il y a énormément de romanesques. Il y a, en fait, à la fois plein de livres pour les personnes qui ont envie de s'évader. Il y a des livres aussi sur des sujets d'actualité. Donc, on peut trouver plein de choses. C'est très bien écrit. Il n'y a pas de raison que ce soit moins bien écrit dans ce rayon que dans un autre. Donc, c'est vraiment un rayon chouette, pluriel, dans lequel on s'amuse beaucoup.
Quand on rentre à la librairie Le Fire, qui est située donc à rue Saint-Georges, dans le vieux centre de Rennes, eh ben, on descend les escaliers puisque cette partie-là, elle est vraiment au sous-sol et vous êtes nombreuses. C'est un petit espace après tout. Ça va pour le boulot?
Oui, complètement. En fait, il est un peu fait en escargot, ce rayon. Donc, on a chacune nos postes. Il est aussi accessible d'ailleurs par ascenseur pour les personnes qui ont des poussettes, ce qui est quand même régulier dans notre rayon. On est une équipe de 3, Noémie, Jeanne et moi. Il y a également Marine qui est en stage en ce moment pour quelques mois, mais on se répartit très bien le boulot.
C'est un rayon qui est très féminin.
Oui, c'est vrai. Pour le moment, j'ai pas connu d'homme dans ce rayon. Ah si, il y a eu Joanne qui a été pendant quelques années un libraire emblématique du rayon.
Et de toute façon, ils ne sont pas bien loin.
Non,
parce qu'entre la poche,
et la bande dessinée.
Ouais, ils ne sont pas loin. Aujourd'hui, tu es venu nous parler de cette littérature sur le prisme de quelques titres. Comment as-tu fait ta sélection?
Eh bien justement, je voulais montrer le côté pluriel de ce rayon. Donc on a des premiers albums, ça va de 0 jusqu'à des livres qui sont interdits au moins de 15.
Wow.
Des livres plus âgés.
Et tu veux commencer par lequel?
Je vais commencer par le tout petit.
D'accord.
Donc Premier bonheur de Véronique Joffre, qui est un album jeunesse assez grand, mais tout en carton, vraiment à destination des petits, qui est très joli. Sur la couverture, on voit un enfant de quelques mois avec un chat, les deux se font un câlin, ils ont l'air très heureux.
Oui, le chat, il paraît même presque plus grand que le bébé.
Oui, le bébé est vraiment tout petit, il le serre dans ses bras. Et c'est justement ça ce que va être ce très joli album.
Waouh.
C'est un album très très coloré où on va mettre en lien ses premiers bonheurs des enfants et aussi des animaux. Ils sont à chaque fois, on voit par exemple une maman qui va allaiter son enfant, et puis juste sur la page juste à côté, ce sont des chatons qui sont aussi avec leur maman en train d'être allaités. C'est tout doux, c'est très coloré aussi. Les adultes ont des tenues très très stylées, pleines de couleurs, tout le monde a l'air extrêmement joyeux, heureux. Ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont Véronique Joffre dépeint les adultes. Ce sont des espèces de personnages extrêmement gros. Les membres sont presque un peu disproportionnés, c'est tout en rondeur. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils font, ils ont l'air de géants tout doux. Ils ne font pas peur du tout. Et on s'imagine que c'est peut-être comme ça que les enfants, les bambins nous voient, comme des espèces de géants, mais des géants apaisants, des géants protecteurs, des géants qui vont leur faire du bien. Et donc on suit, on a à la fois donc, des tout petits nourrissons qui sont au sein de leur mère, et puis des enfants plus grands avec les frères et sœurs qui jouent. On voit un ours et ses petits en train de faire des câlins. C'est vraiment... très très doux, c'est un livre que je propose et que j'offre moi-même en cadeau de naissance à chaque fois.
Oui, ça transpire la sérénité en fait.
Ouais, ça montre vraiment ce cadeau très chouette que c'est d'être en vie et d'avoir plein de bonheur à venir, à savourer. C'est hyper joli.
D'une certaine façon, les images matérialisent peut-être des moments de la vie de l'enfant.
Oui.
J'ai vu là à la fin presque une grand-mère qui était avec le petit.
Oui.
C'est assez joyeux.
Ouais.
On a le sentiment aussi, je suis un peu loin de livre, mais qu'il y a une question dans les couleurs. Ça change vachement les scènes. Elles sont très changeantes avec des coloris un peu plus foncé quand il y a des animaux, ou plus marqué, oui. On va dire.
Oui, c'est vrai. Les animaux, on va avoir un fond qui est uni. Par exemple, là, on est avec un loup et ses louveteaux, ou une louve et ses louveteaux peut-être. Donc, on a un fond, un ciel bleu, alors que les humains et les humaines, eux, c'est un ciel plutôt blanc, et on va s'accrocher plutôt aux couleurs de leurs vêtements, qui sont vraiment très stylisés. elle a fait attention.
C'est un peu bobo, là. Hein.
Oui, complètement. Il y a des petits Claudine aussi, parfois, des petits nœuds. Mais c'est hyper joli. Et puis voilà, ce côté où on a plein d'étapes, il y a à la fois effectivement l'étape où on imite les adultes, et puis il y a l'étape aussi où on a peut-être un petit frère ou une petite sœur à venir, donc avec une maman qui est enceinte de nouveau, et on voit le gros ventre.
En tout cas, ça ramène à des moments de vie qui peuvent éventuellement traverser le petit ou la petite, et qui peuvent être accueillis de manière très apaisante.
Oui.
Quoi. C'est bien parce que ça fait un peu baume au cœur.
Bah, complètement. Et puis, c'est des moments un petit peu insignifiants aussi. C'est-à-dire que c'est des moments où on mange, on lit, on joue. Mais ce n'est pas des grands, grands, grands moments de vie. Et c'est justement la joie du quotidien.
D'une certaine façon, je me dis que ça peut être même très réconfortant à le regarder, même quand on n'a pas forcément cette sérénité dans son quotidien.
Oui.
Ça nous renforce à l'idée qu'une sérénité est possible.
Mais complètement, et puis que c'est vraiment dans ces petits moments-là. On ne voit pas des grandes fêtes ou des choses comme ça. C'est des petits moments tout doux.
Et est-ce que c'est une spécialité de l'auteur de traiter le sujet de cette manière-là? C'est une autrice. Hein.
Oui, c'est une autrice qui fait aussi ses illustrations très caractéristiques. Elle fait des albums jeunesse pour un petit peu plus grand aussi. Elle fait plein de choses aussi sur les saisons, sur l'accueil des saisons. Elle a fait une très jolie histoire aussi, Peau d'épices, sur une fille dont le papa vient peut-être d'un pays d'Afrique ou des Antilles, on pense plutôt Afrique, et qui voit son père revenir avec plein de fruits un peu inconnus et qui rêve un jour d'aller les goûter dans ce pays. Donc c'est aussi sur le métissage, c'est hyper joli. C'est une autrice et illustratrice dont je suis vraiment toutes les œuvres, j'aime énormément ce qu'elle fait.
Alors on va répéter le nom du livre de l'autrice et la maison d'édition si tu veux bien, Pauline.
Oui, donc c'est Premier bonheur de Véronique Joffre aux éditions Thierry Magnier.
Magnifique. Et le deuxième, toujours encore pour les petits.
Oui, un petit peu plus grand cette fois-ci, on peut le lire à partir de 3-4 ans. C'est « Qui a gobé Steve » de Susanna Lyod et Kate Inley aux éditions de L'Élan Vert. Donc là, c'est assez différent. Si le premier était doux, apaisant, là, c'est plutôt un album pour rigoler. On voit sur la couverture...
C'est déjà drôle.
Oui, voilà, la couverture nous avait interpellés en fait, dans le rayon lorsqu'on l'avait vu arriver. Un oiseau volatile qui n'a pas l'air extrêmement intelligent, qui a dans son bec un ver de terre qui se demande un peu ce qu'il fiche là. Alors, on va ouvrir le livre. Le narrateur de ce texte s'adresse aux lecteurs et aux lectrices et il leur annonce qu'il voudrait faire un livre très sérieux sur les échelles de grandeur, sur la taille. Et donc pour cela, il a besoin de ses personnages principaux qui sont Marcel l'oiseau et Steve le ver de terre. Marcel qui incarnerait le grand et Steve le ver de terre qui incarnerait le petit. Sauf qu'autant vous dire que deux protagonistes qui sont l'un le prédateur, l'autre la proie, ça ne va évidemment pas bien se passer du tout. Et dès la page 2, le pauvre Steve se fait gober par Marcel et va n'avoir de cesse que de vivre un enfer pendant tout l'album puisque Marcel ne veut désespérément le manger, il doit le recracher sous les hurlements du narrateur. Et le pauvre Steve subit un petit peu ce qui se passe. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est que le narrateur s'adresse à ses personnages et au lecteur et à la lectrice. Le narrateur passe par toutes les étapes possibles, la colère, les supplications, les brimades. Il hurle sur sur Marcel en lui expliquant, en le suppliant de ne pas manger Steve, que c'est un album sérieux, qu'il est en train de tout gâcher. Et Marcel, lui, ne peut pas résister à son instinct de prédateur jusqu'au moment où, évidemment, il va y avoir un retournement de situation qui est tout aussi drôle.
Ah, mon Dieu.
C'est
génial.
C'est hyper bien fait. Déjà, les dessins sont très drôles.
Oui.
Et le texte l'est tout autant. C'est vraiment un texte, il faut le lire à voix haute.
Et il s'est amusé en termes de typographie.
Ah oui, non, mais il y a des mots écrits en très gros, en gras. Oui. On a des phrases vraiment... on sent qu'il hurle.
Et puis il y a d'autres petits personnages comme ça.
Fois avec des espèces de gros yeux un peu choqués. Steve n'a vraiment... Marcel, pardon, l'oiseau n'a vraiment pas l'air malin. Il boude, il fait des pièges, il va essayer de faire par tous les moyens, de manger le pauvre petit Steve. Et c'est hyper rigolo. Nous, ça, à la librairie, c'est un livre qui a circulé dans tous les étages.
Ah oui.
On se le passait entre collègues parce que vraiment, du rayon universitaire au premier jusqu'au sous-sol en poche, ça nous faisait tous beaucoup rire. Donc, c'est un livre qu'on conseille pour les enfants, mais les parents vont beaucoup vont s'amuser également.
C'est une pépite.
Ouais.
Alors, il a été fait par...
Donc, Susanna Elliott et Kate Inley. C'est un livre qui est très récent parce que Si Premier Bonheur était paru en 2021, Kiago Bestif vient de sortir, il est sorti il y a quelques semaines, donc en 2025.
Et dans quelle maison d'édition?
C'est L'Élan Vert, une maison qui est très chouette et qu'on soutient ici.
Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou caos. No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Então, tu tome tanto meu coração, não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolva o que tirou daqui, que meu peito se abre e desata os nós. Coração do altar, me devolver como se deve ser. Ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faço melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim. Onde ancoraste teu veleiro em flor, sem mais a vida vai passando no vazio. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta.
Je suis sur Canal B. Nous sommes dans l'émission Le Nombril de Vénus, en compagnie de Pauline, qui est venue directement des rayons jeunesse de la librairie Le Fayeur pour nous raconter un peu sur cette littérature ici, à l'antenne aujourd'hui, vous donner peut-être des envies dans cette littérature qu'on adore ici à Canal B aussi. Et là, encore un livre à commenter. On est en train de monter graduellement
tout
dans les
fait.
Âges, là.
Là, on fait même un gros cap, puisqu'on passe au niveau des romans, et des romans plutôt jeunesse, début d'adolescence. Mmh. Un roman extrêmement important, même pour moi d'ailleurs, qui a été écrit en 2003 et qui est sorti en 2004 en France.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'étais toute jeune, oui. J'étais je devais être en primaire ou un truc comme ça. Ouais, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans et...
Donc tu nous racontes aussi un peu autant que lectrice.
Complètement. Alors là, c'est en fait, j'étais ravie de voir qu'il était toujours disponible, qu'il continuait de partir et donc je ne pouvais pas résister à l'idée de le présenter.
Enfin, je voulais dire lectrice de jeune âge, quoi.
Oui, exactement. Oui. Ça, c'est l'enfant de 10 ans aussi qui est très heureuse de présenter ce livre à la radio aujourd'hui. Donc c'est Cœur d'encre de Cornelia Funke aux éditions Folio Junior, un premier tome d'une trilogie. Et là, on va suivre l'histoire de Maggie, qui a 12 ans. Maggie, qui vit seule avec son père Mo. On imagine que sa mère est décédée, on ne sait pas très bien. On va le découvrir au fur et à mesure. Et ce père Mo, c'est un homme qui est un relieur de livres. Donc, il a transmis à Maggie cette passion pour les beaux livres, pour les vieux livres aussi et surtout. Et donc, ils ont ensemble le goût des mots. Elle est toujours avec sa petite valise que son père lui a fait, où elle met ses livres préférés. Ils passent leur temps à lire, à en discuter. Il déménage régulièrement au gré des demandes de Mo, le père. Et puis un jour, Maggie, alors qu'elle est dans sa chambre toute seule, il fait noir, il y a une petite pluie fine, et puis elle va regarder par la fenêtre, c'est la nuit, et là devant il y a quelqu'un. Il y a un homme qui regarde la maison, qui les guette visiblement. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui est-il? Ça lui fait peur évidemment à cet enfant. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un devant en train d'espionner visiblement? Et puis cet homme va rentrer dans la maison. A priori, c'est un ami de Mo, un ami du père. Il s'appelle Doigt de Poussière, très étrange comme nom. Il a une espèce d'animal, un furet, mais un furet avec des cornes. C'est quand même très bizarre également. Et puis...
On bascule dans autre chose.
Ah oui, là, c'est, pour Maggie, c'est un peu... elle ne comprend pas. Et puis surtout, elle se rend compte que ce père avec qui elle avait une relation si privilégiée, si forte, où a priori il n'y avait pas de secret, bien, visiblement lui cache des choses. Pourquoi est-ce qu'il connaît ce Doigt de Poussière? Il lui en a jamais parlé, ils ont l'air d'avoir partagé beaucoup de choses, il parle d'un livre mystérieux, il parle aussi d'un ennemi a priori qui s'appellerait Capricorne, un être dangereux. Et le lendemain surtout, elle apprend qu'il faut fuir. Il va falloir qu'il parte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors au fur et à mesure du texte, on va comprendre... que Mo, ce père qui a partagé avec sa fille cet amour des mots, ne lui a jamais lu la moindre histoire. Bizarre, mais s'il ne lui a jamais lu la moindre histoire, c'est parce qu'il a une espèce de pouvoir. Oh. Il lit si bien que les personnages des livres sortent et font éruption dans la vie réelle.
Alors ça l'empêche.
Ah, ça c'est compliqué parce que Doigt de Poussière, effectivement, c'est un personnage qui est sorti d'une histoire il y a 10 ans à cause de Mo. Un personnage gentil mais un peu traumatisé quand même de faire irruption comme ça dans le réel. Mais par contre, dans l'histoire, il n'y a pas que des gentils. Il y a parfois des méchants, des très 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 gros méchants. Et donc il y a ce Capricorne qui est sorti aussi de la fiction pour arriver dans le réel.
Mais alors, il ne pouvait pas lire voix haute ou il ne pouvait pas lire tout court?
Il ne peut pas lire à voix haute. Ah, c'est okay. Quand il a vraiment un talent de conteur. Oui. Et lorsqu'il qu'il raconte, eh bien, les personnages sortent. Alors là, c'est un peu le rêve pour tout enfant, lecteur et peut-être pas enfant d'ailleurs. On voit ses personnages préférés sortir du livre. Donc on a cette irruption de la fiction dans le réel. Et cette petite fille, Maggie, qui est avec son père, qui vont devoir fuir. Donc il y a tout un côté aventure. Il y a ce grand méchant qui les poursuit. Mais que cherche-t-il réellement? Quel est le but de la traque qu'il mène? Comment vont-ils s'en dépêtrer? Et puis ce don que son père a, peut-être que Maggie, elle l'a aussi, on ne sait pas. Ah. Donc on va voir si elle va l'hériter. C'est génial, c'est extrêmement addictif, ça donne qu'une envie, c'est de lire. Cornelia Funke, elle parle aussi d'autres livres jeunesse, des livres plus ou moins récents. On a Le Petit Prince, mais on
là,
a des choses...
Là, elle agit comme des auteurs vraiment adultes qui aiment bien mettre des références.
Exactement, elle fait ça, mais à hauteur d'enfant. Mmh. Et elle nous donne juste qu'une envie, c'est d'aller dévorer d'autres livres, de lire à voix haute aussi, ce que je trouve assez chouette, de faire nous-mêmes sortir nos propres personnages de fiction préférés.
Qui sait
Peut-être que si on lit suffisamment bien, ça arriverait dans la vraie vie.
Sommes-nous vraiment dans la vraie vie? Est-ce le réel?
C'est aussi ce qu'elle pose, parce que en fait, le pauvre doigt de poussière qui a fait éruption dans le réel, bah, lui, sa fiction, c'était sa vraie vie. Donc, il a perdu des proches, il a perdu plein de gens, et peut-être qu'il a aussi des gens à retrouver. Mmh. Donc, c'est hyper bien, c'est vraiment, on dévore les trois tomes en un claquement de doigts, ça se lit à partir de 11 ans, c'est vraiment à titre indicatif. Moi je l'ai lu, relu, re-relu toute mon adolescence, et on peut le lire avant aussi, suivant notre niveau de lecture. C'est absolument génial.
Et on n'est pas déçu par la suite?
Pas du tout.
Parce qu'il y a trois tomes, tu disais.
Oui, il y a trois tomes. Non, ça continue toujours aussi loin. Ça va même encore plus loin, sans aucune déception. On est vraiment complètement à fond dans l'histoire. On n'a qu'une envie, c'est de voir jusqu'où les frontières entre fiction et réel peuvent se frôler, voire se percuter clairement. C'est un livre comme on rêve, enfin, d'un excellent niveau d'écriture, un livre plein d'imagination qui vraiment stimule l'imaginaire enfantin, adolescent et adulte, c'est génial.
Et qui vient toucher aussi à quelque chose d'intéressant peut-être pour des jeunes, c'est comment on perd nos repères. Comment on perd nos repères, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça engendre, comment on peut se sentir.
Là, il y a la question aussi de cette relation père-fille, voilà. De Maggie qui croyait que son père n'avait aucun secret pour elle et qui réalise que parfois aussi les adultes ont des choses à cacher, peut-être pour leur bien ou pas, peut-être que c'est une erreur de tout cacher, on ne sait pas, on va le découvrir. Mais en tout cas, elle découvre que ce père a eu une vie avant elle, qu'il continue d'avoir une vie et qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas.
Et ben voilà, donc c'est une très belle option. Tu as donné les références, peut-être on peut juste les répéter.
Oui, bien sûr, donc Cœur d'encre, le premier tome d'une trilogie de Cornelia Funke et aux éditions Folio Junior.
Et on enchaîne avec la dernière pépite de cette émission.
Tout à fait, c'est La Chasse de Maureen Desmailles, un premier roman aux éditions Thierry Magnier également, dans la collection L'Ardeur. Alors c'est une collection qui est réservée aux 15 ans et plus, c'est vraiment interdit aux moins de 15 ans parce qu'il y a de la sexualité dedans. Il y a vraiment cette question des premiers émois amoureux, donc voilà, c'est pas pour les plus jeunes, c'est pour ça aussi on montre la pluralité du rayon, on a des choses pour les tout petits et pour les beaucoup plus grands. La Chasse, ce premier roman, il est sorti en 2023 et il a obtenu le prix Vendredi 2024, donc un grand prix français de littérature adolescente. Donc c'est vraiment une belle récompense pour ce titre très audacieux. Nous suivons l'histoire de Max qui est élève au lycée. On est entre pendant les vacances d'été qui séparent la première de la terminale. Max, c'est un peu l'éternel invisible derrière ce grand frère qui réussit tout, ce grand frère qui va partir à Paris faire une prépa. Et d'ailleurs, les parents de Max vont partir pendant le mois d'août accompagner le grand frère Antoine à Paris pour préparer son emménagement. Alors Max se sent très clairement délaissé. Le personnage va devoir rester pendant tout le mois d'août un peu tout seul dans sa maison. Et puis surtout, Max vient de vivre son premier grand chagrin d'amour. Donc c'est compliqué, c'est vraiment pas franchement la bonne période. Mais juste à côté, il y a dans une maison un couple d'adolescents également, Ellie et Cosme. On est chez Ellie plutôt, la jeune fille qui est assez fascinante, qui a un très blonde, très blanche de peau, qui a l'air très très amoureuse de Cosme. Ils forment un couple assez magnétique, assez fort. Et les trois adolescents et adolescentes vont commencer à se fréquenter. Et entre les trois, va se nouer un jeu un peu trouble, de plus en plus sensuel. Alors il y a plein de choses qui sont super dans ce texte et la première chose c'est qu'on ne connaît pas le genre de Max. C'est un peu une prouesse technique et d'ailleurs c'était aussi compliqué pour moi de le présenter. On ne sait pas si Max est une fille ou un garçon et surtout ça n'est pas l'enjeu, on ne le saura jamais. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va questionner nos propres projections, nos propres préjugés aussi peut-être. qu'on imagine que Max est une fille, quand est-ce qu'on imagine que c'est un garçon. Lorsque l'on lit le texte, quand Max est en colère, est-ce qu'on imagine que c'est plutôt un garçon, une fille, quand Max est triste, quand Max est amoureux ou amoureuse, bref, à chaque fois, comment est-ce qu'on se représente ? C'est un texte aussi qui parle effectivement de cette sensation d'invisibilité, du fait de grandir un peu dans l'ombre parfois, de personnes qu'on estime être bien supérieures à soi. Parfois, quand on regarde en arrière, en fait, on les trouve plutôt banales, mais sur le moment, ils nous paraissaient être des héros ou des héroïnes. C'est un texte aussi un peu doux amer sur l'ennui, sur la mélancolie déjà, sur ces émotions parfois un peu débordantes de l'adolescence, sur les premiers chagrins d'amour. Et puis évidemment, c'est un texte aussi sur la sexualité, sur le désir, sur le fait que quand on est au lycée, entre la première et la terminale, c'est potentiellement des moments où on va peut-être découvrir son corps, le corps des autres. Et c'est un texte très chouette parce que... il y a vraiment une écriture, il y a une justesse dans le ton, dans le propos, dans tous les sujets qui sont abordés. On a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui nous demandent des textes de romance, des textes parfois très très sensuels, voire même érotiques. Et c'est chouette d'avoir ce genre de choses aussi proposées, cette collection d'ailleurs L'Ardeur de proposer, où on va avoir des textes de qualité, avec des auteurs, des autrices qui ont vraiment sincèrement très vraiment réfléchi à leurs propos, à la manière dont ils parlent aux adolescents et adolescentes.
Et qui ne viennent pas forcément nous imposer des choses dans la maltraitance.
Non, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est justement plutôt autour des sujets du consentement... autour des stéréotypes.
Pas que de la maltraitance.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait il y a des questions sur les représentations, par exemple, dans certains textes de romance. Et là, c'est justement assez chouette d'avoir des textes qui vont proposer de l'érotisme adapté pour des adolescents, où on a vraiment réfléchi à ce qu'on leur fait dire. Et c'est aussi des textes pensés pour eux, où ils vont être vraiment... à la fois porté par une vraie écriture et en même temps par des sujets qui les touchent.
C'est la fin de l'émission Le nombril de Vénus sur Canal B.
Excellente référence aujourd'hui ici à l'antenne de Canal B pour ces livres qui sont plutôt dans les rayons de la littérature jeunesse, notamment chez Lofire avec toi Pauline et les collègues qui on embrasse bien évidemment et qu'on invite à l'antenne pour venir nous parler de manière aussi passionnante que toi des livres qui nous pouvons effectivement connaître davantage au travers de la lecture. Merci beaucoup.
Merci beaucoup également. Je suis très heureuse d'avoir été là. Merci.
Génial. À la prochaine alors.
Ah oui.
Et bon week-end à tout le monde. Bisous. Bye. Minority to develop a vision of